comme annoncé aujourd'hui, on va parler dans cette deuxième séquence des travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale. Et nous sommes avec Catherine Costanza, qui est une spécialiste de ce sujet et que j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir. Bonjour Catherine.
Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation.
Eh bien,
voilà, le plus spécialiste, je dirais passionné, parce que
passionné, pas, ouais.
Voilà, je suis arrivée à ça par inadvertance plus que pour l'avoir étudié.
Voilà, donc c'est vrai qu'il existe des historiens qui se sont penchés sur cette présence et ces actions de ces travailleurs chinois de cette guerre 14-18. Hein. Pendant longtemps, ça a été un petit peu, j'allais dire, masqué. Pas trop abordé. Oui. Est-ce qu'il y a des raisons à cela ?
Oui, il y a de nombreuses raisons. Je pense que les raisons les plus importantes, celles que l'on remarque très vite, c'est le malaise ressenti autant par la France que l'Angleterre et la Chine sur ces recrutements qui, en réalité, n'ont pas eu l'effet désiré par la Chine, n'ont pas eu... les promesses tenues par l'Angleterre ou la France sur certains sujets d'ordre pécunier ou d'ordre de sécurité. La Chine était alliée, mais un allié non armé.
C'était plutôt un pays neutre à l'époque, on peut dire pays neutre.
Non, je ne dirais pas tellement, non. Mais un allié logistique, je dirais plutôt,
d'accord.
Qui a fourni des hommes, qui a fourni en échange de récupérer, à l'issue de la guerre, si bien entendu les alliés étaient vainqueurs, sa souveraineté, puisqu'on sait que certains territoires étaient occupés par les Allemands, il y avait le problème du Japon, il y avait le problème il y avait beaucoup de problèmes à ce moment-là en Chine, et la Chine pensait avoir le retour inespéré en mettant à disposition, parce qu'au début elle n'était pas d'accord pour envoyer des hommes, elle n'était pas d'accord du tout, il a fallu vraiment les convaincre, parce que la Chine savait très bien que l'Europe était en guerre et ne voulait pas participer à cette guerre vraiment. Physiquement, de façon armée.
Voilà, ils ne voulaient pas être des co-belligérants, on peut dire ça maintenant.
Oui, voilà, oui, exactement. C'est le mot consacré et qui malheureusement revient éternellement.
Voilà. Donc, il faut rappeler que leur mission était, on va dire, n'était pas du tout d'ordre militaire. Hein, c'était d'entretenir, d'organiser, de nettoyer, de faire des travaux.
Il y a eu plusieurs missions et je pense que c'est quelque chose dont il faut vraiment parler parce qu'avec le recul, avec le temps et puis après avoir lu beaucoup de témoignages, de livres d'experts et parler aussi avec des descendants de ces travailleurs chinois, je pense qu'ils ont... Bien que l'on dise que 80% d'entre eux étaient des illettrés, étaient des paysans, ils étaient illettrés par rapport à nous. Parce que nous ne parlions pas ni l'anglais, ils ne parlaient ni l'anglais, ni le français, ni aucune autre langue que le mandarin. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas beaucoup de choses. Parmi eux, il y a eu quand même des paysans, mais qui savaient lire, qui savaient soigner, qui savaient cuisiner. Alors, ils ont fait beaucoup de manutention, en majeure partie. Mais il y a eu des traducteurs, il y a eu des professeurs, il y a eu surtout des compagnies de travailleurs chinois spécialisés notamment en mécanique industrielle, recrutés spécialement dans l'univers de l'industrie en Chine pour pouvoir travailler sur certaines machines, soit dans les mines, soit aux ateliers de tanks, soit dans des industries très pointues où il fallait de la main-d'œuvre.
Donc Catherine Costanza, ces travailleurs, certains étaient, on va dire, managés par la France, hein, les Français, enfin l'armée française, et d'autres par l'armée anglaise, c'est ça ?
Alors, pour les travailleurs chinois recrutés par la France, au travers de différentes missions, Truptil, Grillé, Ségalène, Michelin, Schneider, il y a eu plusieurs missions en fonction de leurs besoins, bien entendu. Hein. Eux étaient... Alors, c'est très, d'où le problème, c'est très, très opaque. C'était des travailleurs civils, non armés, sous régence, je dirais, du gouvernement français, mais avec un encadrement militaire sur place, sur les ateliers. Il y avait toujours un militaire pour les encadrer, pour les faire descendre, pour les faire monter, pour les faire marcher. Mais quand même, ils dépendaient du monde civil. Les Anglais, eux, c'était très carré. Hein, c'est encadrement, recrutement par l'armée, encadrement par l'armée, travail avec l'armée. Voilà, il n'y avait pas de possibilité autre que celle-là. Mais pour la France, c'était très différent. C'était très différent parce qu'ils ont occupé des postes que des civils occupaient, aux usines, aux fonderies, dans les mines, surtout à partir de 1918. Mais les recrutements français ayant commencé surtout en 1916, arrivés en 1916 en France, il y a eu un petit flottement entre 1916 et fin 1917, où beaucoup ont travaillé sur les tranchées. Pour nettoyer, pour déblayer, pour réparer les voies ferrées, surtout les voies étroites, pour lesquelles les travailleurs chinois ont énormément œuvré, parce qu'ils avaient un savoir-faire. Il ne faut pas oublier que, quand même qu'ils ont construit la plupart des voies ferrées aux États-Unis en 1800, début 1900. Mais il y a un recrutement dont on ne parle jamais et qui est beaucoup plus important, c'est le recrutement opéré par les Russes dès 1915. Alors là, les Russes ont recruté en masse entre 200 et 300 000 Chinois pour désenclaver la Sibérie de la Mandchourie, pour pouvoir construire des voies ferrées, acheminer le matériel. Voilà. Donc nous ne sommes plus du tout sur un chiffre officiel de 140 000 travailleurs chinois, comme on se plaît tout le temps à dire, mais plutôt de 300 000, 400 000 travailleurs chinois.
Alors, ceux qui sont venus en France ont eu des difficultés avec le climat et avec aussi les grippes, etc.
Oui. Alors, il faut se remettre vraiment dans le contexte. On était en pleine guerre. Tout le monde était mal loti. Ils n'ont pas été plus mal lotis que les poilus qui étaient dans les tranchées, qui ont souffert le martyr. Ils ont été ignoré. Pour moi, c'est là où tout se joue, c'est que les Chinois ont été ignorés et maintenus dans des camps pour pas qu'ils se mélangent, mais aussi comme certains Africains, comme les prisonniers allemands, pour pas qu'ils se mélangent à la population. Mais toute la... Alors, ils ont été malades, mais ils ont été soignés aussi. Ils n'étaient pas plus maltraité qu'un poilu, je dirais, vous voyez.
D'accord. Et donc,
parce que c'était la guerre, parce que il manquait de tout, mais pour tout le monde, il manquait de tout pour tout le monde.
Oui, bien sûr.
Alors, eux, quand même, ont réussi on va dire les 9 dixièmes ont réussi à rentrer au pays. Seuls ceux qui sont morts et ceux qui ont voulu rester en France ou en Angleterre, hein, ou aux États-Unis sont restés. Il y en a même qui sont restés en Afrique du Nord puisqu'ils avaient cette possibilité-là à la fin de la guerre. Hein. C'était des accords avec la France, Algérie, Maroc. Mais ils ont quand même pu rentrer chez eux.
Mmh. Alors, Gogang est avec nous, il est chinois, hein, oui, et donc il connaît peut-être cette histoire. Je ne sais pas si on en parle en Chine, Gogang.
Oui, bien sûr. Donc, généralement, d'abord, donc, je suis très content, Catherine, qui prend le temps de faire la recherche. Oui. Donc, c'est vrai, c'est un mémoire un petit peu creuse donc, pour les Français, pour les Chinois. Voilà. Au début, d'où vient ce peuple ? Parce que c'est la fin de la dynastie Qin. Et à l'époque, quand la Chine remboursait certaines guerres à la France, c'est par l'argent. Et à l'époque, donc, dynastie Qin, il n'y a plus de l'argent. Dans ce cas-là, il utilise main-d'œuvre pour remplacer. Dans ce cas-là, il y avait 70 000 Chinois, les jeunes Chinois de 16 ans jusqu'à 20 ans, ils sont recrutés pour revenir en France à l'époque pour objectifs, travaux civils, voilà, comme Catherine a dit, travaux publics, n'est pas tout à fait pour la guerre. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas prévoir faire la guerre. Par contre, ce sont des Chinois qui sont venus ici, paf, Première Guerre mondiale qui est déclenchée, et pendant cette période, donc c'est le transit du pouvoir de dynastie Qin vers la République de Chine, menée par Sun Yat-sen. Donc la France, dans ce cas-là, un peu gênée, donc il contactait Et au gouvernement, à l'époque c'est à Pékin, et voilà, donc on a des main-d'œuvre chinoises, on ne sait plus comment faire, parce que et la guerre, ça a commencé, on va essayer de renvoyer chez vous. Le problème, donc, pendant la transit du pouvoir, et la Chine, c'est vraiment au niveau de l'administration, c'est bazar, c'est bouleversé. Donc, la Chine dit, donc, on ne peut pas récupérer. D'abord, donc, il y a, en Europe, oui, il ne faut pas oublier, à l'époque, il y a pandémie, il y a de Covid à l'époque. Donc, il y a plein de Chinois, ils sont morts là-bas. Donc, et la Chine ne veut pas que la maladie retourne en Chine. Donc, dans ce cas-là, donc, ce sont des gens qui sont utilisés par le gouvernement français servir à la guerre. Alors, le problème, la guerre s'est déclenchée très vite, donc l'armée française n'a pas eu le temps de former ses main-d'œuvre chinois, parce que la plupart des Chinois, ce sont des Chinois qui viennent de la campagne et jamais servir ce type de l'armée. Voilà. Donc, il y a plein de gens, quand même, ils ont eu l'armée, mais ils ne savent pas comment servir. Donc, pendant la guerre, il y a plein de gens, c'est vrai, qui sont morts en France. Et puis, à la fin, il y a une petite, toute petite partie vivante qui retournait en Chine. Et la plupart, donc, soit qui blessaient, qui restaient ici. Et c'est ça. Donc, j'ai découvert cette affaire quand je suis venu en France dans les années 90. Il y a des amis français qui m'ont dit, voilà, donc, tout près ici, il y a un cimetière chinois. Grand cimetière chinois. Je dis que c'est marrant, donc pourquoi il y a grand cimetière chinois? Et après, on m'a amené dans le cimetière. Oh là là, j'ai vu plein de tests sur tout le main-d'œuvre chinois. Il y a plupart vient de Shandong. Ah, le plupart, c'est bien Shandong. Ça, c'est intéressant parce que dans le cimetière, il a bien marqué les informations. Voilà, ça c'est vraiment c'est formidable.
Alors, Catherine, vous organisez un événement et on va en parler, là.
Oui, alors nous avons créé une association pour la réhabilitation de ces hommes que nous n'avons plus trop envie d'appeler des travailleurs, forcément c'était des ouvriers, c'était des hommes avant tout. Et à Erin, où il y a eu 1500 Chinois embauchés comme main-d'œuvre, mais aussi techniciens spécialisés de l'industrie mécanique, recrutés par William Hawkins. Nous avons fait ériger, enfin, M. Antoine Berth, avec son association, a fait ériger une stèle, mais nous avons choisi, avec certaines associations franco-chinoises, de créer un événement tous les ans, le 25 mars, pour honorer la mémoire de tous ces hommes. Mais
super,
pas seulement.
Bon été,
pour que ce ne soit pas tout le temps une commémoration dans un cimetière, mais on commémore aussi les vivants, on commémore tous ces événements, tous ces hommes qui ont souffert, et surtout ce que l'on veut, c'est redonner leur place dans l'histoire à ces hommes, parce que pendant longtemps on n'en a pas parlé, il a fallu presque un siècle pour que finalement la mémoire s'ouvre et qu'on puisse enfin les honorer, parce qu'ils méritent, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des gros sacrifices. Et voilà, donc nous, notre événement, c'est une commémoration officielle, bien sûr, qui aura lieu tous les 25 mars, mais aussi une exposition, parce que nous avons un fonds d'archives et de documents extrêmement important, vu que nous travaillons dessus, pour moi, depuis 2005, et Monsieur Berthe depuis 2014. Et nous avons exploré vraiment tous les alentours, récupéré tout ce que nous avons pu récupérer, issu du camp de travailleurs chinois, des ateliers de Tang d'Erin.
Donc,
et nous
allons présenter maintenant
beaucoup de pièces
neuves. Erin, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est dans le Pas-de-Calais, alors c'est entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Hesdin, au milieu, on va dire, vers le nord, c'est ça, c'est un petit village.
Oui. Voilà, c'est une toute petite commune, mais le camp était très grand. Il s'est tiré entre Teneur, Tilly et Erin. Erin étant vraiment le plus gros de la base, puisqu'il y avait le plus gros des voies ferrées, des chemins de fer aussi. Mmh. Et comme il y a eu 4 travailleurs chinois qui sont morts lors des bombardements de la nuit du 24 au 25 mars 1918, ils sont enterrés à Noyelles-sur-Mer, mais on voudrait, par cette commémoration et par la stèle que nous avons fait ériger, créer un lieu géographique, physique, où non seulement les honorer, mais en plus voir leur travail.
Très bien, Catherine Costanza. Donc, ce que je propose, c'est que les gens qui peuvent aillent faire un tour les 24, 25 et 26 mars à Hérin. Et puis, chaque année, ça va se reproduire. On va rappeler que c'est organisé par l'association Hérin, la Grande École, les travailleurs chinois de la Grande Guerre. Une exposition donc avec des pièces inédites. Les horaires d'ouverture, ça se passe où exactement à Hérin d'ailleurs?
Alors, ça se passe parce que nous rachetons justement l'ancienne école et l'ancienne mairie qui surplombent les ateliers de réparation de tanks où ont travaillé les 1500 chinois. Nous rachetons les locaux pour faire des salles d'exposition, une bibliothèque, un centre de travail aussi, avec toute la documentation, tout ce qui a été écrit en toutes les langues, pour que les gens puissent venir s'instruire et découvrir cette histoire-là. Alors nous, l'exposition aura lieu... c'est mitoyen à la mairie, donc on ne peut pas se tromper. C'est l'ancienne mairie mitoyenne à la nouvelle mairie.
Très bien, un grand merci Catherine.
C'est pour le public, c'est pour tout ce public, je suppose.
Et ensuite, inauguration de l'exposition et déjeuner, pot de l'amitié et déjeuner le samedi 25.
Samedi 25, à quelle heure?
À partir de 10h, la commémoration, et ensuite l'inauguration, et puis à midi, il y a le repas, le verre de l'amitié, et ensuite l'exposition, tout le samedi, dimanche.
Un grand merci, Catherine Costanza.
Avec plaisir, et puis bonne journée à vous tous.
Merci bien.
Oui.